Un petit ballast sur les ondes de la marge. La pièce Beaten Metal, c'est tiré de l'album Security et c'est bien indiqué pour commencer cette prochaine ce prochain segment de l'émission, une première chronique de la convergence des luttes anticapitalistes de Montréal. Ici en studio avec moi, Mathieu. Bonjour Mathieu.
Bonjour Simon. Ça va bien?
Ça va très bien, merci. Alors une chronique qu'on commence cette semaine qui va revenir chaque mois, une espèce d'abécédaire anticapitaliste. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'idée?
Oui, premièrement, félicitations pour les 5 ans de l'émission. J'ai eu un flash tantôt, la semaine passée, c'était ton spécial de 5 ans. Merci de nous inviter aussi. Oui, chronique une fois par mois par des chroniqueurs amateurs, on peut dire, du comité agit-prop de la CLAQ. On va venir parler de différents sujets. L'idée, oui, d'un abécédaire, donc on trouve un mot à partir d'une lettre qu'on choisit, une chronique qui en devient. Et ce ne sera pas dans l'ordre, ça va être selon l'actualité, parce que c'est plus intéressant comme ça. Des sujets plus théoriques, parfois comme c'est quoi la répression, c'est quoi la plus-value, mettons.
Voilà, puis la répression, on en parlera aujourd'hui en masse à l'émission.
Je vais en parler exactement.
Mais cette semaine, pour le 11 septembre, Journée mondiale de lutte contre le terrorisme, le thème du jour, I comme insécurité.
Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai choisi pour inaugurer cette nouvelle chronique de la CLAQ. Donc, petite définition de base de l'insécurité pour situer les gens. On dit que ça désigne dans leur vie quotidienne le sentiment fait d'anxiété ou de peur que peut ressentir un individu ou une collectivité devant ce qui peut survenir. Il s'oppose au sentiment de sécurité ou de sérénité, officiellement, selon la terminologie. Le postulat que je fais aujourd'hui, c'est que les mesures de sécurité qui répondent supposément à de l'insécurité réelle ou créée, mais qui génèrent encore plus d'insécurité pour les communautés et les individus. Donc, je voulais commencer avec un petit retour historique, un peu de contenu. À partir des années 50, on qualifie de terroristes les différentes formes de résistance, les guérillas, les groupes armés, etc. Pourtant, quelques années auparavant, les pires actes de terrorisme ont été commis par les armées régulières des pays pendant la Deuxième Guerre mondiale et ont continué à être perpétrés contre les populations qui combattent les armées impérialistes et les dictatures militaires. Vietnam, Algérie, Argentine, on pourrait en nommer plusieurs. Chili, évidemment. 11 septembre, on fait le lien, évidemment, c'est sûr. Dans les années 60 et 70, les opprimés amènent la guerre dans les grandes villes des pays occidentaux, en même temps que des groupes d'extrême-gauche locaux pratiquent aussi la lutte armée. Donc, on déménage la guerre, on ramène la guerre, finalement, les guerres impérialistes dans les villes occidentales, donc du Nord. À partir des années 80, on commence, mais on continue, dans le fond, à délégitimer les actions politiques des groupes. Avant, on les marginalisait, on les réprimait aussi, mais on reconnaissait leur caractère politique et revendicateur. Là, on les réduit à des criminels avides de violence, à des mercenaires à la recherche d'argent et de gloire, ou à des intégristes barbares et primitifs.
Comme dans la politique antiterroriste du Canada, dont je citais un extrait tout à l'heure en début
d'émission. Exactement. On annonce des mesures exceptionnelles, on suspend les droits, on augmente les budgets sécuritaires, c'est beaucoup dans les années 80. Par exemple, en France, on crée la Vigie pirate. Je sais pas si les gens connaissent cette espèce de tableau selon le niveau de sécurité. Il y a une couleur, ce qui a été repris après le 11 septembre aux États-Unis, et il y a des mesures exceptionnelles selon le niveau. Ça va jusqu'à écarlate en France. Puis ça existe depuis les années 80 en France, et ils l'utilisent encore régulièrement quand il se passe quelque chose, soit de politique.
Donc du vert à l'écarlate.
Exactement. On va dire du jaune vert à l'écarlate, ouais, tout à fait.
Parce qu'on est rarement dans le vert dans les temps qui
tournent, c'est ça. Ni dans le bleu, c'est ça. Donc, les années 80, toujours, on crée aussi des services de surveillance spécialisés, comme le fameux SCRS au Canada, Service canadien de renseignement et de sécurité, qui est de plus en plus connu. Comme par hasard, les années 80, c'est une période de crise économique, de coupures, de privatisation, de congédiements massifs. Comme par hasard aussi, on associe les syndicats combatifs, les différents militants de gauche, aux terroristes de plus en plus. La CSN et le syndicat des postiers du Canada sont infiltrés par le CRS dans les années 80, et des agents provocateurs qui vont faire des actions aussi violentes souvent.
Tu veux dire des casseurs infiltrés?
Oui, voilà. Oui, des militants professionnels? Non.
C'est ça.
Des policiers, donc, qui s'infiltrent. On commence à opposer différents groupes de la société pour créer de la méfiance, favoriser la délation, pour identifier des boucs émissaires, évidemment. Les supposés terroristes, les radicaux ou tout simplement les opposants ne sont plus contre l'État, l'élite ou les politiques économiques, mais bien contre la société, contre la majorité, contre la démocratie, contre les honnêtes travailleurs. Donc, on oppose les bons et les méchants de plus en plus.
La majorité silencieuse, n'est-ce
oui,
pas?
Oui, la majorité morale aux États-Unis des années 80. Aussi, la moral majority. Donc, arrive le 11 septembre aux États-Unis, qui ne fera que favoriser l'augmentation des mesures de contrôle et le délire paranoïde, particulièrement en Amérique du Nord. L'insécurité entretenue depuis des années par les médias va atteindre des niveaux historiques aux États-Unis et par la bande ici au Canada. Donc, le 11 septembre sera très pratique pour nos fascistes favoris de Washington, qui va justifier plein de choses, hein, le Patriotic Act, la guerre en Afghanistan, la guerre en Irak, Le système d'alerte de couleur, comme je te parlais tantôt, Guantanamo, Abu Ghraib, l'axe du mal, la criminalisation de milliers de musulmans aux États-Unis, ce qu'on sait moins souvent, le waterboarding, l'interdiction de manifestations, les prisons de la CIA, les drones, etc., etc. Donc, le capitalisme militariste prendra le contrôle du pétrole de l'Orient et des millions de personnes seront désormais sous la botte des valets de Cheney et Rumsfeld. Donc, la pacification démocratique à l'américaine ou à la nord-américaine. Au Canada, les libéraux se dépêcheront de créer une loi antiterroriste, comme tu parlais. Ils vont multiplier les certificats de sécurité contre des hommes musulmans, plusieurs étant signés par un certain Denis Coderre, ministre de l'Immigration.
Ben tiens,
on fait des liens. Le cas d'Ahmed Ressam en 2000 avait déjà déchaîné les chiens enragés démagogues de nos médias jaunes, mais après 2001, l'islamophobie sera la nouvelle norme journalistique et sera même de bon ton. Maher Harar en sera une des victimes les plus célèbres. L'arrivée des conservateurs en 2006 ne fera qu'envenimer la situation. Les affaires Abou Soufiane Abdelrazik et Omar Kader, pour ne nommer qu'elles, ne feront que renforcer l'absurdité du délire sécuritaire. Les multiples réformes racistes des lois sur l'immigration et d'autres programmes ciblant de façon discriminatoire certaines catégories de migrants, en plus des milliers de visites du SRH chez les musulmans, viendront confirmer que l'alimentation de l'insécurité est payante politiquement. Le sommet du G20 à Toronto en 2010 et son budget sécuritaire de plus d'1 milliard en sera l'apothéose. Les conservateurs aiment bien le concept des safe communities, qui est basé sur la peur de l'étranger, la peur de l'itinérant, la méfiance envers les chômeurs, les homosexuels affirmés, envers tous ceux et celles qui ne vont pas à l'église et qui ne travaillent pas de 9 à 5.
Et qui profitent des largesses des contribuables.
Et des programmes très généreux, exactement. Ces quartiers uniformisés sont basés sur une présence policière importante et intrusive, de la vidéosurveillance et un individualisme de plus en plus triomphant. C'est le tough on crime sur les pauvres. Les valeurs de solidarité, d'inclusion et de respect sont évacuées. En conclusion, nos autorités politiques et économiques actuelles n'ont plus jamais réussi à atteindre certains de leurs objectifs. D'une part, disposer d'une population docile et productive qui a intégré comme une idée naturelle que leur élite les protège contre les éléments indésirables et dangereux. D'autre part, pervertir la notion de violence au point où un collant rouge apposé sur une vitre représente à lui seul l'intimidation. Pendant ce temps, les crosseurs qui nous exploitent peuvent continuer à s'enrichir sans limite et détruire la planète, bien protégés derrière l'appareil sécuritaire qu'ils ont alimenté au nom de la démocratie.
Eh bien, on parlait en introduction de l'émission du débat entre sécurité et liberté. Finalement, ce qu'on peut en conclure, c'est que la sécurité des uns, c'est la privation de liberté des autres, peut-être.
Oui, pour servir des intérêts bien particuliers et bien privés, en général. Ouais.
Et donc, ben merci beaucoup, Mathieu, pour une première chronique.
On brise la glace.
La claque, ben oui, c'est ça, c'est bien parti. Alors, on va se retrouver le mois prochain pour un autre thème. Peut-être pas avec toi, ça va être en rotation, comme tu
exactement
disais, avec les gens du comité. J'ai de prob de la claque. Il nous reste encore peut-être une ou deux minutes, alors on peut conclure. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ce délire sécuritaire-là? Puis bon, on va parler beaucoup de répression politique aujourd'hui à l'émission. Donc, comment est-ce qu'on peut faire le pont, finalement, entre le délire sécuritaire dont la claque vient de faire un état des lieux assez exemplaire, puis la dérive sécuritaire dans laquelle on est en train de se perdre?
Ben, il faut savoir qu'il y a un historique qui est là, donc c'est pas nouveau, mais c'est de plus en plus subtil, utilisé à des fins souvent de plus en plus précises. Tout le complet militaro-sécuritaire policier de plus en plus important en Amérique du Nord, mais en Europe aussi, puis dans les pays du Sud. Et c'est sûr qu'avec, si on vire vers la répression, avec toute la nouvelle réglementation, tu vas parler de PC, j'imagine, dans l'émission, il y a la commission sur la répression politique en fin de semaine. Donc, il y a vraiment une prise de conscience, mais c'est sûr que c'est de plus en plus utilisé. Et au Québec, avec un gouvernement d'austérité qui va bûcher et couper dans tout ce qu'il peut, la répression va être de plus en plus sévère, puis ça va toucher de plus en plus toutes sortes de monde, pas juste les militants-militantes radicaux, mais de plus en plus de sortes de gens qui vont s'opposer à toutes sortes de choses. On a vu le débat autour de la grève étudiante, c'était effrayant les associations entre l'intimidation, la violence, la peur, qui étaient faits pour diviser les gens, pour fragiliser les gens, et aussi pour leur faire passer à peu près n'importe quoi. Là. Ouais.
Puis ce qu'on voit, c'est que c'est définitivement pas quelque chose de nouveau. Alors,
non, mais c'est de plus en plus, on dirait, normal et la norme, justement, que ça soit de plus en plus contrôlé. Puis on le voit dans notre vie au travail, dans notre vie, dans toutes sortes d'endroits, dans notre vie économique, dans notre sécurité financière, notre sécurité alimentaire. C'est de plus en plus fragilisé. Tout ça au nom du maintien de l'ordre, finalement. Ouais.
Et de la sécurité des uns.
Ouais.
Alors, merci beaucoup, Mathieu, de la claque.
Plaisir.
On va donc retrouver la claque le mois prochain pour une autre chronique de l'abécédaire anticapitaliste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi.
Merci à toi.
Alors, nous, on poursuit tout de suite en musique sur les ondes de la marge. Vous écoutez Mêle Émission. On va écouter la pièce Dissident d'ici, tirée de l'album Vue du large de la CDI. Restez là.